Chapitre 10. Mon Carreras, sous couleur de politique et de libéralisme, était un coquin de la plus vile espèce et avait fait du malheureux état de Mendoza la proie des bandits, des voleurs, des traîtres et des assassins qui constituaient son parti. C'était, sous un extérieur noble, un homme sans cœur, sans pitié, sans honneur et sans conscience. Il n'aspirait à rien qu'à la tyrannie, et se fut volontiers servi de Gaspard Ruiz pour mener à bien ses néfastes projets s'il ne se fût bientôt avisé qu'une entente avec le gouvernement chilien seconderait plus favorablement ses desseins. Je rougis d'avouer qu'il proposa à notre gouvernement de livrer, moyennant certaines conditions, la femme et l'enfant de l'homme qui avait eu foi en son honneur, et que cette offre fut agréée. À mi-chemin de Mendoza, dans la passe de Pequeña, la jeune femme, trahie par son escorte de carriéristes, fut livrée au commandant d'un fort chilien du plateau intérieur, au pied de la grande chaîne des Cordillères. Cette atroce transaction eût pu me coûter cher, car je me trouvais prisonnier au camp de Gaspard Ruiz lorsqu'il en reçut la nouvelle. J'avais été pris au cours d'une reconnaissance, et les hommes de ma patrouille avaient été tués à coups de lance par les gardes du corps indien de Ruiz. Il me reconnut juste à temps pour me sauver la vie. Mes amis me tenaient évidemment pour mort, et je n'aurais pas donné un liard de mes jours. Mais le géant me traita fort bien, parce que j'avais toujours cru à son innocence, me dit-il, et m'étais efforcé de lui venir en aide quand il était victime de l'injustice. Et maintenant, conclut-il, vous allez voir que je dis toujours la vérité. Vous n'avez rien à craindre. Cette sécurité me parut précaire un soir que je fus appelé près de lui. Arpentant comme une bête fauve la pièce où je le rejoignis, il criait « Trahi ! Trahi !» Il vint à moi les poings serrés. « Je pourrais vous couper la gorge. »« Cela vous rendrait-il votre femme ?» demandai-je, aussi placidement que je le pus. « Et l'enfant ? » clama-t-il, comme un fou. Il se laissa tomber sur une chaise, éclata d'un rire violent et terrible. « Oh non, vous n'avez rien à craindre. » Je lui affirmai que la vie de sa femme était assurée aussi, mais sans ajouter ce dont j'étais convaincu, c'est qu'il ne la reverrait jamais. Il demandait une guerre à mort, et la guerre ne se terminerait qu'avec sa mort à lui, en effet. Il me lança un regard étrange, inexprimable, et resta assis en marmonnant d'un ton monotone « Entre leurs mains, entre leurs mains !» Je me tenais quoi comme une souris devant un chat. Soudain, il bondit. « Qu'est-ce que je fais ici ? » cria-t-il. Et ouvrant la porte, il lança l'ordre du bout de sel. « De quoi s'agit-il ? » balbutiait-il. « Du fort de Pequeña, un fort en palissade. Ce n'est rien. Je la reprendrai, même si elle est enfermée au cœur de la montagne. » Il me stupéfia, en ajoutant avec un effort, « Je l'ai emporté dans mes deux bras quand la terre tremblait, et l'enfant est à moi, au moins. » Bien à moi. C'était là d'étranges paroles, mais je n'eus pas le temps d'épiloguer. Vous viendrez avec moi, fit-il rudement. Je puis avoir besoin d'un parlementaire, et tout autre messager de Ruiz, le hors-la-loi, se ferait couper la gorge. C'était trop vrai. Il ne pouvait plus y avoir de relations conformes aux coutumes d'une guerre honorable. Moins d'une demi-heure après, nous étions en selle, volant dans la nuit à folle allure. Il n'avait au camp qu'une escorte de 20 cavaliers, mais se refusa à attendre l'arrivée d'autres hommes. Il dépêcha seulement des messagers à Penéleo, le chef indien, alors en expédition au pied des montagnes, et lui ordonna de rallier les hautes terres pour le rejoindre près du lac appelé l'Œil des Eaux, au bord duquel s'élevait le fort frontière de Pequeña. Nous franchîmes la plaine avec cette inlassable vélocité qui avait rendu si fameuses les expéditions de Gaspard Ruiz. Nous suivîmes, jusqu'au précipice de leur source, les vallées inférieures. La chevauchée n'était pas sans danger. Une route en corniche sur un mur vertical de basalte contournait des roches en surplomb et finit par nous faire émerger de la pénombre d'une gorge profonde pour déboucher sur le plateau de Pequeña. C'était une plaine d'herbes vertes et nettes, semée de minces buissons fleuris. Très haut, au-dessus de nos têtes, des flaques de neige brillaient dans les crevasses et les replis de grands pans de roches. Le petit lac était rond comme un œil grand ouvert. La garnison du fort faisait rentrer son troupeau de bétail quand nous débouchâmes dans la plaine. Les lourdes portes vite repoussées nous laissèrent voir pourtant, par-dessus les larges piquets pointus et noircis de l'enceinte carrée, les toits de chaume de huttes qui semblaient désertes, vides, sans une âme. À la sommation lancée par un cavalier qui, sur l'ordre de Ruiz, s'était intrépidement porté en avant, les occupants du fort répondirent par une salve qui fit rouler à terre monture et cavalier. J'entendis Ruiz grincer des dents près de moi. « Cela n'a pas d'importance, fit-il. À votre tour. » Pour user et friper qu'en fussent les lambeaux, les vestiges de mon uniforme furent reconnus et les assiégés me laissèrent approcher à portée de l'oreille. Mais je dus attendre qu'une voix qui lançait par une meurtrière des clameurs de joie et d'étonnement me laissa placer un mot. C'était la voix du major Parrol, un vieil ami à moi, qui, comme d'autres camarades, me croyait tué depuis beau temps. « Pique des deux, mon vieux !» cria-t-il avec fièvre. « Nous allons t'ouvrir la porte. » Je laissai tomber les rênes et secouai la tête. « Je suis prisonnier sur parole, » répliquai-je. « Prisonnier sur parole d'un homme de cette espèce, » répliqua-t-il, avec un dégoût profond. « Il vous promet la vie sauve. Notre vie est à nous. Et c'est toi, Santiara, qui nous conseille de nous rendre à ce rastrero ?»« Non, » criai-je, « mais il veut sa femme et son enfant, et peut vous couper l'eau. C'est elle alors qui sera la première à souffrir. Dis-le-lui. Écoute, tout cela est idiot. Nous allons faire une sortie et nous saisir de ta personne. » « Vous ne m'attraperez pas vivant, » répliquai-je avec fermeté. « Imbécile !»« Pour l'amour de Dieu, » repris-je vivement, « n'ouvrez pas la porte. » Et je montrai la multitude des Indiens de Penéléo qui couvraient les rives du lac. Jamais je n'avais vu réuni un si grand nombre de ces sauvages. Leurs lances étaient serrées comme des brins d'herbe, et leur voix rauque faisait un bruit immense et confus, comme le murmure de la mer. Mon ami Parrol jurait comme un possédé. « Eh bien alors, va au diable !» cria-t-il avec exaspération. Puis, à peine avais-je tourné le dos, qu'il se repentit et ordonna « Abattez-moi le cheval de cet imbécile avant qu'il ne se sauve !» Il avait de bons tireurs. Deux coups retentirent, et au moment même où il virait, mon cheval trébucha, s'abattit et resta immobile, comme s'il eût été frappé de la foudre. J'avais vidé les étriers et pu me dégager en tombant, mais je ne tentais pas de me relever, et ils n'osèrent pas non plus venir me saisir. Les masses des Indiens avaient commencé l'assaut du fort. Groupés par escadrons, leurs longs chussos au vent, ils sautaient de selle hors de portée de fusil et rejetaient leurs manteaux de fourrure pour s'avancer nus à l'attaque, tapant des pieds et criant en cadence. Trois fois, une langue de flamme courut le long de la façade du fort sans rompre leur élan fougueux. Ils parvinrent au pied de la palissade en brandissant de larges poignards. Heureusement pour les assiégés, les poteaux n'étaient pas réunis comme à l'ordinaire par des lanières de cuir, mais par de longs clous sur lesquels leurs lames n'eurent pas de prise. Déconcertés par l'échec de leur méthode habituelle, les païens qui avaient si intrépidement marché sous les salves se débandèrent pour fuir en désordre sous la fusillade du fort. À peine m'eurent-ils dépassé que je me levai pour rejoindre Gaspard Ruiz sur une crête basse en saillie au-dessus de la plaine. La fusillade de ses soldats avait couvert l'attaque, mais sur un geste de lui, une trompette lança le signal « Cessez le feu ». Nous regardions tous deux en silence l'irrévocable déroute des sauvages. « Il va falloir faire un siège alors, » grommela-t-il. Et je le vis se tordre furtivement les mains. De quel siège pouvait-il s'agir? Je n'eus pas besoin de répéter la menace de mon ami Parrol. Ils n'osaient pas couper l'eau des assiégés, et ils avaient des vivres en abondance. S'ils en avaient été à court, au surplus, il eût été le premier à en envoyer dans le fort, à supposer la chose possible. En réalité, c'est nous, dans la plaine, qui commencions à ressentir les affres de la faim. Penéléo, le chef indien, était assis devant notre feu, drapé dans son ample manteau de peau de guanaco. C'était un sauvage athlétique, à l'énorme tête carrée, massive et hérissée comme une ruche de paille, et aux traits rudes, revêches et torturés. Il répétait dans son mauvais espagnol, en grondant comme une bête en fureur, que si l'on faisait dans l'enceinte une prêche, si minime qu'elle fût, ces hommes pourraient y entrer et délivrer la signora. Pas autrement. Assis en face de lui, Gaspar Ruiz tenait littéralement les yeux fixés sur le fort, jour et nuit, dans une immobilité et un silence impressionnants. Cependant, nous apprîmes par des courriers survenus presque chaque jour de la plaine la défaite de l'un de ses lieutenants dans la vallée de Maipú. Des éclaireurs détachés au loin apportèrent la nouvelle qu'une colonne d'infanterie franchissait des passes lointaines pour venir à la rescousse du fort. Elle s'avançait lentement et nous étions informés de sa marche pénible le long des basses vallées. Je m'étonnais que Ruiz ne se lançât pas à l'assaut de cette force menaçante pour la détruire dans quelques gorges sauvages, propice à une embuscade et à son génie pour la guerre de guérilla. Mais ce génie semblait l'avoir abandonné et livré au désespoir. Pour moi, il était manifeste qu'il ne pouvait s'arracher à la vue du fort. Je vous assure, señores, que j'étais bien près d'avoir pitié de cet homme, que sa force laissait sans puissance, et que je voyais sur la crête, indifférent au soleil, à la pluie, au froid et à la bise. Les mains jointes autour des jambes et le menton sur les genoux, il regardait, regardait de tous ses yeux. Et le fort qu'il contemplait ainsi restait aussi impassible et aussi muet que lui. La garnison ne donnait pas signe de vie et ne répondait même pas aux coups de feu désordonnés dirigés sur les meurtrières. Une nuit, comme je passais devant lui, il m'interpella brusquement, sans changer d'attitude. « J'ai envoyé chercher un canon, » fit-il. « Je le recevrai à temps pour reprendre ma femme et battre en retraite avant que votre Robles ne puisse grimper ici. » Il avait envoyé chercher un canon dans la plaine. La pièce fut longue à venir, mais arriva enfin. C'était une pièce de 7 de campagne. Démontée et fixée à 2 longues perches, elle avait sans peine été portée par 2 mules le long des sentiers étroits. Le cri d'exultation sauvage de Ruiz quand il vit l'escorte du canon émerger à l'aube de la vallée retentit encore à mes oreilles. « Mais, señores, je n'ai pas de paroles pour vous peindre sa stupeur, sa furie, son désespoir, son égarement, quand il apprit que l'animal chargé de l'affût était au cours de la dernière nuit de marche tombé dans un précipice. Il lança contre l'escorte des menaces de torture et de mort. Toute la journée, je me tins à l'écart, me dissimulant derrière des fourrés et me demandant ce qu'il allait faire. La retraite lui était permise, mais il ne pouvait pas s'en aller. Je voyais derrière moi son artilleur, Jorge, un ancien soldat espagnol, dresser un étrange édifice fait de selles entassées. Le canon y fut hissé tout chargé, mais quand le coup partit, l'affût improvisé s'effondra et le boulet fila bien au-dessus de la palissade. On ne hasarda pas de nouvelles tentatives. Une des mules chargées de munitions avait été perdue aussi et Ruiz n'avait plus à tirer que 6 coups, provision largement suffisante pour abattre la porte si la pièce eût été bien fixée. Mais c'était chose impossible sans un affût que l'on n'avait ni le temps ni les moyens de construire. Je m'attendais d'un instant à l'autre à entendre les clairons de Robles éveiller les échos des montagnes. Penéléo, qui errait avec inquiétude, drapé dans ses peaux de bête, s'assit un instant près de moi en marmottant son éternel refrain. « Fais une entrada, un trou. Si tu fais une ouverture, bueno. Sinon, alors, vamos, il faut partir. » Après le coucher du soleil, je remarquai avec surprise que les Indiens paraissaient se préparer à un nouvel assaut. Leurs lignes se formaient en bon ordre dans l'ombre des montagnes. Sur la plaine, en face de la porte du fort, je vis un groupe d'hommes qui remuait sur place. Personne ne faisait attention à moi, et je descendis la pente. La lune, dans l'air pur des montagnes, répandait une lumière claire comme celle du jour, mais la brutalité des ombres me troublait la vue et m'empêchait de distinguer les détails du petit groupe. J'entendis la voix de Jorge, l'artilleur, déclarer d'un ton bizarre, tremblant, « Nous sommes chargés, señor. » Alors une autre voix s'éleva dans le groupe pour ordonner d'un ton ferme, « Apportez la riata. » C'était la voix de Gaspar Ruiz. Un silence plana, pendant lequel les coups de feu des assiégés déchirèrent l'air avec fracas. Eux aussi, ils avaient remarqué quelque chose d'insolite. Mais la distance était trop forte, et au milieu du sifflement des balles qui labouraient le sol, le groupe se déployait, se reformait, s'agitait, en me laissant apercevoir au centre une silhouette accroupie. Je m'approchais, doutant de mes yeux qui me révélaient une vision d'enfer, un rêve suggestif et insensé. Une voix étrangement étouffée commanda « Serrez un peu plus les nœuds !»« Si, seigneur !» répondirent vivement plusieurs voix terrifiées. La voix étouffée reprit « Comme cela, il faut que je puisse respirer !» Plusieurs hommes s'écrièrent avec un accent d'inquiétude « Soulagez-le, hombres, voyons, sous l'autre bras !» Puis la voix assourdie commanda « Bueno, reculez-vous, les enfants !» Je me frayai un chemin à travers les hommes qui s'écartaient, et j'entendis à nouveau la voix oppressée commander avec anxiété « Oublie que je suis vivant, Jorge. Oublie-moi tout à fait et pense à ce que tu dois faire. Soyez sans crainte, Seigneur. Vous n'êtes qu'un affût de canon en ce moment, et je ne perdrai pas mon coup. » J'entendis le crépitement d'une mèche et sentis une odeur de salpêtre. Je vis tout à coup devant moi une masse informe, arc-boutée sur les pieds et les mains, comme une bête, avec une tête d'homme qui pendait sous un tube projeté en avant dans la nuque. Une masse sombre de bronze luisait sur son dos. La chose s'accroupissait, toute seule, en avant d'un demi-cercle d'hommes. Jorge se tenait derrière, avec à son côté un trompette immobile, l'instrument sur la hanche. Jorge, plié en deux, murmurait, la morse au doigt, « Un pouce à gauche, seigneur. C'est trop. Là. Maintenant, baissez-vous un peu, en pliant les coudes, et je vais... » Il bondit de côté et abaissa sa flamme. Un jet de feu sortit par la gueule du canon fixé au dos de l'homme. Alors Gaspard Ruiz se laissa aller tout de son long. « Bon coup ? » demanda-t-il. « En plein but, seigneur. »« Eh bien alors, recharge !» Je le voyais allongé devant moi, sur le ventre, écrasé par le bronze, fait sombre et monstrueux, tel qu'amour ou force d'homme n'avait jamais rêvé d'emporter dans l'histoire lamentable du monde. Ses bras étaient écartés, et il faisait sur le sol baigné de lune figure de pénitent prostré. Une seconde fois, je le vis se soulever sur les mains et les genoux, tandis que le vieux Jorge se penchait, l'œil au long du tube. À gauche un peu, à droite d'une ligne. « Por Dios, señor, cessez de trembler. Où est donc votre force ?» La voix du vieux canonnier se brisait d'émotion. Il fit un pas de côté et, prompt comme l'éclair, approcha le bout de feu de la morse. « Parfait ! » cria-t-il d'une voix mouillée. Mais Gaspard Ruiz resta longtemps aplati sur le sol. « Je suis fatigué, » murmura-t-il enfin. « Est-ce qu'il suffira d'un troisième coup ?»« Sans aucun doute, » fit le vieux Jorge en se penchant vers son oreille. « Alors, charge !» lui entendis-je ordonner d'une voix distincte. « Trompette ?»« Présent, seigneur. J'attends votre ordre. Tâche, quand tu le recevras, de lancer un appel qui se fasse entendre d'un bout à l'autre du Chili, » fit-il d'une voix extraordinairement forte. « Et tenez-vous prêts, vous autres, à couper cette maudite riata, car il sera temps pour moi alors de me mettre à votre tête pour l'assaut. Maintenant, soulevez-moi. Et toi, Jorge, dépêche-toi de viser. » Le vacarme des coups de feu du fort étouffait presque sa voix. La palissade était couronnée de fumée et de flammes. « Tendez toutes vos forces contre le recul, mi amo, » fit le vieil artilleur en chevrotant. « Enfoncez vos doigts dans la terre, là, maintenant. » Un cri d'enthousiasme lui échappa après le coup. Le trompette leva son instrument à ses lèvres, attendant l'ordre. Mais nul ordre ne sortait de la bouche de l'homme prostré. Je tombai sur un genou et entendis ce qu'il lui restait à dire. « Quelque chose de brisé » souffla-t-il, en levant un peu la tête et en tournant les yeux vers moi, sans rien changer à son attitude d'irrémédiable écrasement. « La porte ne tient plus que par des échardes !» cria Jorge. Gaspard Ruiz voulut parler, mais sa voix mourut dans sa gorge, et j'aidai à décharger son dos brisé. Il était insensible. Je gardais naturellement les lèvres closes. Le signal de l'attaque ne fut point lancé aux Indiens, et à sa place éclata, terrifiant pour nos ennemis comme l'appel du jugement dernier, l'écho des clairons des forces de secours que mes oreilles attendaient depuis si longtemps. Une tornade, señores, un véritable ouragan d'hommes en déroute, de chevaux affolés, d'Indiens montés passa sur moi. Je me tapis sur le sol, à côté de Gaspar Ruiz, toujours allongé sur le ventre, les bras en croix. Dans sa fuite éperdue, Penelio me visa au passage avec son long chuso, en manière d'amical adieu sans doute. Comment j'échappais à la grêle des balles, c'est plus difficile à comprendre. Je m'aventurai trop vite à me redresser sur les genoux, et dans leur ardeur à tomber sur un être vivant, des soldats du 17e régiment Taltal faillirent me clouer sur le sol à coups de baïonnette. Ils parurent fort désappointés lorsque leurs officiers, accourus au galop, les repoussèrent à coups de plat de sabre. C'était le général Robles avec son état-major. Il aurait bien voulu faire des prisonniers et parut lui aussi un instant désappointé. « Comment, c'est vous ? » cria-t-il. Il descendit aussitôt de selle pour m'embrasser, car c'était un vieil ami de ma famille. Je désignai le corps prostré à nos pieds et prononçai ces simples paroles « Gaspar Ruiz ». Il leva les bras d'étonnement. « Ah, votre homme fort ! Vous serez resté jusqu'au bout avec lui. N'importe, il nous a sauvé la vie quand la terre tremblait assez pour faire pâmer les plus braves d'épouvante. J'en étais moi-même fou de terreur. Et lui pas. Que guapo! Où est le héros qui l'a vaincu? Ah, ah, ah! Qu'est-ce qu'il a tué, Chico? Sa propre force, général, répondis-je. Chapitre 11. Gaspar Ruiz respirait pourtant encore. Je le fis porter dans son poncho, à l'abri d'un fourré, sur la crête même d'où il avait si fixement regardé le fort, tandis que l'invisible mort planait déjà sur sa tête. Nos troupes bivouaquaient autour du fort. Au point du jour, je ne fus pas surpris d'apprendre que j'étais désigné pour commander une escorte et emmener sans tarder une prisonnière à Santiago. Naturellement, c'était la femme de Gaspar Ruiz. « Je vous ai désigné par égard pour vos sentiments, » me déclara le général Robles. « Mais à vrai dire, cette femme-là mériterait d'être fusillée pour tout le mal qu'elle a fait à la République. » Et devant mon mouvement de protestation indignée, il poursuivit, « Maintenant que le voilà mort, ou tout comme, cela n'a plus d'importance. Personne ne va savoir que faire d'elle. » Mais le gouvernement la réclame. Il haussa les épaules. Je suppose que Ruiz a enfoui de gros amas de ses rapines dans des endroits connus d'elle seule. À l'aube, je vis la jeune femme gravir la crête entre deux soldats avec son enfant dans les bras. Je m'avançai à sa rencontre. « Est-il encore vivant ? » me demanda-t-elle, en tournant vers moi ce pâle et impassible visage que Ruiz contemplait avec une telle adoration. J'inclinai la tête et la conduisis sans un mot derrière un massif. Gaspard avait les yeux ouverts. Il respirait avec difficulté et dut faire un gros effort pour prononcer ce nom, Herminia. Elle s'agenouilla près de sa tête. Sans s'occuper du mourant et ouvrant de grands yeux autour d'elle, la fillette se mit soudain à gazouiller d'une voix joyeuse et aiguë. Elle désignait de son petit doigt le reflet rosé du soleil levant, derrière les silhouettes sombres des pics. Et tandis que sonnait cette voix enfantine, incompréhensible et douce à l'oreille, les deux autres, le mourant et la femme à genoux, silencieux, se regardaient dans les yeux et écoutaient le son frêle. Tout à coup, la voix se tut. La fillette appuya sa tête contre la poitrine de sa mère et resta immobile. « C'était pour vous, » commença Ruiz. « Pardonnez-moi. » La voix lui manqua. Et bientôt, dans un murmure, je distinguais ces mots douloureux, pas assez forts. Elle le regardait avec une intensité prodigieuse. Il s'efforça de sourire et d'un ton humble. « Pardonnez-moi, » répéta-t-il. « En vous quittant ?» Elle se pencha, les yeux secs et d'une voix ferme. « Sur cette terre, je n'ai rien aimé que toi, Gaspard, » dit-elle. Il fit un mouvement de la tête et un peu de vie reparut dans ses yeux. « Enfin » soupira-t-il. Puis, avec angoisse, « Mais est-ce vrai? Est-ce bien vrai ?»« Aussi vrai qu'il n'y a en ce monde ni pitié ni justice, » répondit-elle d'un ton farouche. Elle se penchait sur le visage du mourant et s'efforçait de lever la tête qui retombait en arrière. Quand elle lui baisa les lèvres, il était déjà mort. Ses yeux ternis regardaient le ciel où des nuages roses flottaient très haut. Je vis les paupières de la fillette s'abaisser et se clore doucement. Serrée contre la poitrine de sa mère, elle s'était endormie. La veuve de Gaspard Ruiz, le fort, se laissa emmener sans une larme. Pour le voyage, nous avions disposé à son usage une selle en forme de fauteuil avec une planche destinée à supporter ses pieds. Le premier jour, elle chevaucha sans prononcer une parole et sans détourner un instant les yeux de la petite fille qu'elle tenait sur les genoux. À notre première étape, je la vis se promener pendant la nuit en berçant l'enfant dans ses bras et en la contemplant à la lueur de la lune. Lorsque nous fûmes repartis pour notre seconde journée de marche, elle me demanda dans combien de temps nous arriverions au premier village du pays habité. Je lui répondis que nous y serions vers midi. « Y trouvera-t-on des femmes ?» s'enquit-elle. Je répondis que c'était un gros village. « Et vous y verrez, signora, » ajoutai-je, « des hommes et des femmes au cœur réjouis par la nouvelle que les tourments de la guerre sont enfin terminés. » « Oui, tout est bien fini maintenant, » acquiesça-t-elle. Puis, après un silence, « Seigneur officier, qu'est-ce que votre gouvernement va faire de moi ?»« Je l'ignore, » répondis-je. « On vous traitera bien, sans aucun doute. Nous autres républicains ne sommes pas des sauvages et ne tirons pas vengeance des femmes. » Le mot de républicain m'attira de sa part un regard plein d'une inextinguible haine. Mais une heure ou deux après, comme nous nous effacions pour laisser les mules à bagages nous précéder sur un sentier étroit qui bordait un précipice, elle leva sur moi un visage si blême et si torturé que je ressentis une grande pitié pour elle. « Seigneur officier, dit-elle, je suis faible, je tremble. C'est l'effet d'une terreur insensée. » Et en effet, ses lèvres tremblaient, tandis qu'elle s'efforçait de regarder avec un sourire l'entrée de l'étroit sentier qui n'était pas, somme toute, bien dangereux. « J'ai peur de laisser tomber la petite. Gaspard vous a sauvé la vie. Vous vous en souvenez? Prenez-la moi. » Je pris l'enfant qu'elle me tendait. « Fermez les yeux, signora, et fiez-vous à votre mule, » lui conseillai-je. Elle obéit. Sa pâleur et les traits tirés de son visage mince lui donnaient un air de mort. À un détour du sentier, où une grosse masse de porphyre rouge masque la vue de la plaine, je lui vis ouvrir les yeux. Je me trouvais juste derrière elle, tenant la fillette sur mon bras droit. « L'enfant va bien, » criai-je, en manière d'encouragement. « Oui, » répondit-elle d'une voix faible. Et tout à coup, à mon intense terreur, je la vis se dresser sur la planche, jeter dans le vide des yeux d'horreur et se lancer dans l'abîme ouvert à notre droite. Je ne saurais vous décrire la soudaine et abjecte épouvante qui m'accabla devant cette affreuse vision. C'était l'horreur de l'abîme, l'horreur des rochers qui semblaient me faire signe. Ma tête tournait. Je pressai l'enfant contre mon côté et restai en selle, rigide comme une statue. La mule broncha, se colla contre la paroi rocheuse, puis se remit en route. Mon cheval se contenta de pointer les oreilles avec un léger gémissement. Mon cœur s'arrêta, et, monté des profondeurs du précipice, le bruit des pierres roulées dans le lit du torrent furieux me rendait à moitié fou. Un moment après, nous avions franchi le point dangereux, et nous nous trouvions sur une large croupe herbeuse. Je me mis à appeler, et mes hommes fort inquiets accoururent vers moi. Il paraît que je ne pus que crier d'abord, « Elle a placé l'enfant dans mes mains. Elle a placé l'enfant dans mes mains. » L'escorte me crut fou. Le général Santiarra se tut et, se levant de table, « Et c'est tout, señores, » conclut-il en adressant à ses hôtes un regard courtois. « Mais l'enfant, qu'est-elle devenue, général ?» demandâmes-nous. Ah, l'enfant, l'enfant. Il se dirigea vers une fenêtre ouverte sur un beau jardin, refuge de ses vieux jours, dont la renommée était grande par tout le pays. Il leva les bras pour contenir notre élan et appela « Herminia, Herminia !» Il attendit un instant, baissa le bras et nous nous serrâmes contre la fenêtre. Une femme émergeait d'un bouquet d'arbres et s'engageait sur la large allée bordée de fleurs. On entendait le frou-frou de ses jupons de lingerie et l'on distinguait l'ampleur de sa jupe de soie noire à l'ancienne mode. Elle leva la tête et, voyant tous ses yeux curieusement braqués sur elle, s'arrêta avec un froncement de sourcils et montra le doigt au général qui riait avec impétuosité. Puis, tirant sa mantille de dentelle noire de façon à masquer en partie son profil hautain, elle disparut à nos regards avec une raide dignité. « Vous venez de voir l'ange gardien d'un vieillard, et celle à qui vous devez tout ce que mon hospitalité peut vous offrir de plaisant. » Bien que la flamme d'amour se soit tôt allumée dans mon cœur, je ne me suis jamais marié, señores. Et peut-être est-ce pour cela même que les étincelles du feu sacré ne se sont pas encore éteintes là. Il frappait sa large poitrine. Il vit toujours, toujours, proclama-t-il, avec une emphase mi-sérieuse, mi-comique. Mais je ne me marierai jamais. Et vous avez vu la fille adoptive et l'héritière du général Santiarra. Un de nos commensaux, un jeune officier de marine, parlait de cette fille adoptive comme d'une vieille fille, petite et grassouillette, d'une quarantaine d'années. Nous avions tous remarqué que ses cheveux grisonnaient et qu'elle avait de très beaux yeux noirs. Elle non plus, poursuivait le général Santiarra, elle n'a jamais voulu entendre parler de mariage. Une vraie calamité, bonne, patiente, dévouée au vieillard que je suis. Une âme simple. Mais je ne conseillerais à aucun de vous de lui demander sa main, car si elle prenait votre main à vous dans la sienne, ce ne serait que pour vous broyer les os. Ah, elle ne badine pas sur ce sujet-là. Et c'est bien la fille de son père, l'homme fort qui périt par sa propre force, la force de son corps, de sa simplicité, de son amour.